Alors, nous allons parler tout d'abord d'hameçonnage. Nous allons parler d'un style d'hameçonnage en particulier, avec, disons, des raisons pas triviales, et pour que les gens puissent comprendre ce qui est une attaque d'hameçonnage. Alors, nous allons parler d'usurpation d'identité d'un bureau d'enregistrement. Donc, nous allons mettre ça dans le contexte. Donc, une attaque d'hameçonnage, c'est une manière d'engénérer socialement un individu de, par un courrier électronique, par un message, de faire quelque chose que cette personne ne ferait pas habituellement, de révéler l'information que cette personne ne voudrait pas divulguer, mais parce que c'est quelque chose que cette personne a besoin de divulguer cette information, de prendre action. Nous sommes habitués à voir des attaques d'hameçonnage qui sont, disons, associées à des vols d'identité ou à des activités frauduleuses ou des affiliations avec quelque chose qui est trop magnifique, par exemple des achats, par exemple une montre d'une grande maison de mode. Et de ce que nous sommes en train de parler ici, c'est le type d'hameçonnage où, au lieu d'usurper l'identité, disons, d'un marchand, ou d'une banque, ou d'une enchère en ligne, le pirate usurpe l'identité du bureau d'enregistrement. Donc, au lieu, disons, d'envoyer ses emails à un client qui veut acheter des sacs, cela est envoyé à un client d'un bureau d'enregistrement. Il y a deux manières qui sont très consistantes de la manière dont l'hameçonnage est fait. Alors, c'est fait de deux manières. Donc, l'email est envoyé à tout un groupe de clients et comme ça, le pirate peut collecter. Donc, nous allons parler en question de ça tout d'abord. Ou sinon, il y a une cible en particulier. Parce que c'est, par exemple, il y a un aspect de grande valeur à cibler un client. Et de même, utilisons l'analogie d'hameçonnage. Alors, dans le monde de vol d'identité, une baleine, par exemple, c'est quelqu'un qui a un compte de banque qui est très, très grand ou qui a, disons, plusieurs essais parce que c'est, disons, le chef en ligne et donc le pirate a fait quelques travaux de recherche. Et s'est rendu compte que ça serait quelque chose de rentable parce que si j'attaque cette personne à divulguer cette information, je pourrais obtenir beaucoup d'argent. Ou même à faire un vol d'identité de cette personne. Donc, un client ciblé d'un bureau d'enregistrement, ce qu'il cherche le pirate, c'est quelqu'un qui a, disons, des noms de domaine de valeur majeure. C'est Sébastien, c'est très difficile de vous comprendre. Je ne sais pas si c'est technique parce que votre voix, elle rentre ou elle sort. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait régler ça, mais c'est très difficile de vous entendre. Parce que si vous avez des difficultés. Je me demande si, Sébastien, si vous utilisez la traduction simultanée, si ça vous aiderait. Non, je suis en train d'écouter la chaîne en anglais. Il était en train d'utiliser une connexion de la part de Skype. Il vient de partir. Donc, oui, donc il va essayer de rentrer en accès d'une manière différente. je suis le seul qui est en train d'avoir ce problème. Non, non, ça m'est arrivé à moi aussi. Parce que si c'est que moi, donc ça serait à moi de résoudre le problème. Et si c'est plus une personne, hein, non. Vous étiez le seul qui a été suffisamment intelligent pour nous dire. Alors, je parlais et je me suis rendu compte que personne ne m'entendait parce que j'étais mouée. Alors, Dave vient de nous rejoindre. Alors, c'est meilleur? Oui, mille fois mieux. Bien. Alors, j'ai l'impression que ma connexion de BlackBerry Wi-Fi donc n'est pas préparée pour une téléconférence. Donc, ouais, c'est une histoire très triste, mais c'est toujours comme ça avec notre technologie. Oui, c'est la différence entre 100 ans et 20 ans. Bien, alors, donc je vais continuer. En question de usurpation d'identité des bureaux d'enregistrement. Alors, pourquoi usurper l'identité d'un bureau d'enregistrement? Alors, pourquoi un pirate voudrait donc usurper l'identité d'un bureau d'enregistrement? C'est parce que, de cette manière, ils incitent aux clients de révéler des informations identifiantes de portefeuille, par exemple, qui pourraient être utilisées pour... disons, obtenir des noms de domaine pour changer ou pour modifier les serveurs, pour renouveler les abonnements pour les sociétés, par exemple. La raison pour laquelle, alors, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, c'est parce que, bon, tout d'abord, les domaines peuvent avoir des valeurs avec le but de piraterie, ce qui veut dire... par exemple, d'aider à d'autres pirates. Donc, j'ai essayé de diviser ça dans, disons, deux catégories principales. La première, c'est des activités malveillantes. Et ça, c'est par exemple des scénarios où la mastonore essaye d'attaquer le registrant ou la compagnie qui a le nom de domaine. Alors, ce qu'on peut faire avec l'information du compte si on peut obtenir. Et donc, de cette manière, c'est par exemple voler le nom de domaine. Même si la personne ne peut pas garder le nom de domaine pour beaucoup de temps, d'après ce qu'on a vu avec les incidents d'ICANN, il est possible quand même de faire, par exemple, plusieurs manières de, par exemple, soit ontage ou mettre des problèmes à une compagnie. Et puis l'autre, ce qui est, disons, plus malveillant, c'est par exemple modifier certaines des fiches de DNS qui sont acceptables parmi les comptes de gestion de tous les domaines. Donc de cette manière, il est possible de changer, par exemple, les correspondances, ou cibler toutes les correspondances, changer les adresses principales pour, par exemple, rediriger les demandes de web ou toutes d'autres demandes à un site d'attaque d'hameçonnage ou à un autre site qui usurpe l'identité, mais qui usurpe aussi l'identité de la société. Si, par exemple, je pourrais donc pirater eBay.com et à construire un site qui peut vraiment usurper l'identité de eBay. Je peux comme ça obtenir ici des informations d'identification. Si je peux faire ça avec Citibank, par exemple, et mettre une page de connexion et comme ça obtenir les dates d'information d'identification des clients. Alors, il est possible de faire ça. Par exemple, il y a certaines informations qui sont disponibles lorsque nous rentrons en accès avec un compte d'un bureau d'enregistrement, par exemple d'informations des factures ou par exemple d'autres informations en question des domaines que la personne qui a le compte a, par exemple, en privé ou en proxy. Donc, c'est une valeur majeure parce que c'est une autre manière d'attaquer la compagnie. Alors, principalement, la manière dont nous voyons hameçonnage de bureaux d'enregistrement et le souci que nous avons surtout est que lorsque un compte de domaine a été déjà volé, donc le pirate a la tendance non seulement à utiliser les fiches des domaines existants, mais ajoute aussi des domaines en utilisant une carte de crédit disponible ou information du client si c'est déjà. Et donc, c'est surtout ces informations que le pirate utilise pendant une attaque. Alors, nous allons donc parler d'un scénario d'une attaque d'hameçonnagement des bureaux d'enregistrement. Alors, tout d'abord, en question de pirate, alors, par exemple, ôter la déception. Cela, c'est la partie de l'attaque où la personne, par exemple, met le portail de déception, quelque chose qui est, disons, la partie qui va convaincre, le client à faire la recherche ou avoir disponibilité des noms de domaine où la personne peut se connecter. Lorsque la personne, en question de pirate, peut faire ça, donc la personne essaye de voir qui vont être ses cibles. Alors, surtout, les cibles, ça va être de collecter les courriers électroniques pour les personnes qui vont être contactées. Alors maintenant qu'il y a donc ces deux choses, donc il faut inciter les cibles aussi. Et c'est de cette manière-là qu'un message donc est rédigé, qui va apparaître venir du bureau d'enregistrement, mais surtout un email qui va faire surtout à la personne qui le reçoit de ne pas penser d'aller bien vite au site fraudulent. Et donc, ici, l'hameçonneur attend. C'est ici où, par exemple, dans le monde d'identité de vol d'identité attend pour obtenir l'argent. Et c'est ici où l'hameçonneur attend pour que le site frauduleux soit visité pour essayer de se brancher. Dès que la personne, donc, peut rentrer, la personne obtient de cette manière les informations d'identification et peut donc commencer à faire. Alors, ce qu'ils font les hameçonneurs? Alors, surtout, ce qu'ils font les hameçonneurs, c'est qu'ils comprennent, par exemple, les dynamiques de certitude et de doute. Et donc, le but d'un génie social est de convaincre les personnes qu'ils doivent prendre action immédiatement. Par exemple, faire à quelqu'un à penser que c'est un message légitime et qu'il doit faire attention à ce message. Alors, les bureaux d'enregistrement, par exemple, ont beaucoup de messages, par exemple, des avis de renouvellement, par exemple, et quelqu'un qui se préoccupe de leur domaine va faire attention à un avis de ça, ou sinon un avis de transférence. Ils vont dire, ah, je ne veux pas que mon nom soit transféré. Donc, ils vont aller de cette manière-là au site qui usurpe l'identité et donc révéler leurs informations ou, par exemple, confirmation de commande ou la personne va voir, vous avez acheté ça et vous n'avez pas payé, par exemple, des confirmations d'enregistrement, par exemple, des changements, des demandes pour un autre enregistrement de domaine. Des rappels d'exactitude annuellement. ICANN demande que les bureaux d'enregistrement demandent aux registrants que l'information dont les fiches est exacte et beaucoup des personnes font attention à ça. Et ils vont se dire, oh, je pensais que j'avais fait ça la semaine dernière, je ne l'ai pas fait. Bon, ça continue de cette manière-là. Donc, non seulement il y a plusieurs correspondances, plusieurs messages qui sont attendus par les clients, mais autre chose aussi que les bureaux d'enregistrement font pour leurs clients, c'est de fournir à des informations que leurs clients peuvent utiliser que ces clients ne veulent pas toujours avoir en mémoire. Donc, le bureau d'enregistrement, par exemple, va inclure d'informations personnalisées du client pour assister de cette manière. Si le client et donc les amoceurs vont utiliser ça pour, disons, accentuer la déception. Ici, nous avons un exemple. Et cela, c'est un message protection ASCE. Ça dit, par exemple, merci pour votre commande, client, merci pour avoir commandé. Donc, voilà les détails de votre transaction. Et si vous voyez ça, par exemple, ça a le numéro du client, ça a un numéro de reçu, ça a le total de la commande et ça a un numéro de service au client. Et tout cela est très convaincant. Et ensuite, ça dit, s'il vous plaît, branchez-vous et si vous rentrez à ce site, il y aura d'autres informations d'accès que la messagerie a utilisées pour bien convaincre le client, pour bien diriger la personne qui a reçu ça, pour aller au site frauduleux. Et de cette manière-là, la messagerie a pu inciter à que le registrant aille au site frauduleux et de cette manière convaincre donc au registrant de divulguer leur information d'identité. Alors, en question d'ingénierie personnelle, souvent l'information qui est fournie dans ces messages lorsque ça dit numéro de client, ce n'est pas des informations exactes. Il faut que ce soit des informations qui puissent convaincre. Moi, je ne connais pas mon numéro de client et moi, je pourrais être, disons, hésitant de voir ça et de dire, bon, est-ce que c'est vraiment mon numéro? Mais pas beaucoup de personnes vont prendre ça, disons, cette partie en sérieux et considérer ça. Et donc, et c'est sur ce qui compte la messagerie. Alors, beaucoup d'entre vous, vous connaissez bien qu'il y a plusieurs manières dont les messagers peuvent cacher, par exemple, des sous-messages dans des emails de HTML. Cela est encore populaire et est encore utilisé de nos jours, même si plusieurs de personnes disent à tous les internautes en train de leur dire que la meilleure manière de ne pas être victime d'un messonnage est de cliquer dans des chats. Ici, par exemple, si vous êtes en train de voir la présentation de PowerPoint, si vous voyez, par exemple, le hyperlien, au lieu d'aller à HTTP, Help, Registrar, CLD, CG, VIN, au lieu d'aller au premier lien, vous irez donc au deuxième CGI. Et donc, cela serait essentiellement quelque chose où quelqu'un cliquerait au lieu d'aller, par exemple, au lien du bureau d'enregistrement, ça va, disons, à une autre connexion, soit de l'ordinateur d'Adelphia. Et donc, il y a un site fraudulent et puis c'est là où l'amasonneur attire le client à que le client révèle ses informations d'identification. Et donc, ça, c'est la nature de l'attaque, la nature, disons, de la menace. Nous parlons purement d'usurpation d'identification et pour voler donc les informations d'identifiant pour faire des activités malveillantes. Alors, comment est-ce que les bureaux d'enregistrement peuvent réduire ce risque? Les bureaux d'enregistrement peuvent le réduire de la même manière que les entreprises financières et que le marchand comme eBay ou Amazon le font et d'autres le font ou essayent de disons, traiter avec un messonnage qui, lorsque leurs clients sont ciblés. Donc, il y a une liste de normes, de comportements que plusieurs sociétés se rendent compte que sont les meilleures pratiques, surtout, par exemple, lorsqu'ils mettent en place leur propre portail. Donc, une des choses que nous avions mentionnées avant, c'est que, par exemple, la personnification améliore donc cela. Donc, les bureaux d'enregistrement doivent inclure de l'information qui est vraiment nécessaire. Ce qui veut dire, par exemple, si vous avez le choix entre inclure le numéro d'identification du client, vous devrez considérer ne pas inclure ce numéro parce que ça, c'est quelque chose qu'un Amazoner peut utiliser. Autre chose, c'est éviter d'utiliser des références, des hyperliens lorsqu'il y a des communications avec les clients. C'est quelque chose qui est très courant entre les communautés contre les Amazoners, où ils recommandent de ne pas inclure les hyperliens. Alors, si vous pouvez éviter d'inclure ça, ça serait bien parce que c'est surtout dans des liens de hyperlink que les Amazoners font leur travail. Et ensuite, par exemple, offrir une question de questions dans le site où, par exemple, nous pouvons dire aux clients soyez au courant que les bureaux d'enregistrement sont si vulnérables à l'usurpation d'identification. Et donc, il faut toujours lire à consciencieusement l'information et fournir aux clients un ensemble de règlements ou quel est le type de communication envoyée par le bureau d'enregistrement pour qu'ils puissent comparer. Pour accentuer, par exemple, une question de bureau d'enregistrement, question des normes, quelque chose qui a beaucoup de valeur, c'est de rendre difficile pour un pirate, pour que celui puisse voler les informations d'identification, pour utiliser, par exemple, mettre, par exemple, et ensuite, les bureaux d'enregistrement pourraient faire cela donc, de la même manière que PayPal et eBay le font. Et cela devient plus et plus populaire. Si un token est très cher, il y a d'autres manières. Et même si tout ça n'est pas nécessairement infaillible, donc ça rend encore plus difficile pour qu'une attaque et du succès. Il y a aussi, par exemple, des transactions, des processus, des mécanismes de normes où juste le fait d'avoir un numéro de carte de crédit n'est pas suffisant. Utiliser quelque chose de plus important à part d'une carte de crédit, et nous allons parler de ça dans un autre moment. Une autre chose que les Amazoners peuvent faire parce que les internaux courants ne sont pas très sophistiqués lorsque ça revient au certificat et de, par exemple, informer aux clients qu'ils utilisent des certificats de validation et de cette manière-là faire aux clients tomber dans le piège pour ignorer, par exemple, les pop-up et surtout de fournir plusieurs manières pour que le client puisse soupçonner qu'il y a une attaque d'Amazonage qui est en train d'avoir lieu, que ça devient très commun dans un site, surtout pour que les clients ne soient pas obligés, disons, de chercher dans plusieurs pages pour pouvoir trouver l'information de courrier électronique, l'information d'abus. Cela, c'est aussi une situation où le client ou le bureau du bureau d'enregistrement doit faire attention. Parce que le bureau d'enregistrement est en train d'être usurpé en question de son identification, mais le client aussi doit faire attention à en question de avec qui ils traitent, pour bien confirmer que la personne avec qui ils sont en train de traiter, c'est en effet la personne avec qui ils sont en train de traiter. Alors, en question du point de vue des clients, ne cliquez pas dans des hyperliens. Ces logiciels et ces informations de connexion sont utilisées pour apprendre des nouvelles attaques et des nouvelles styles constamment. Et donc, si vous utilisez surtout un produit anti-spam, s'il y a une attaque considérable contre un bureau d'enregistrement d'un mécénage, ce logiciel anti-spam va, d'une manière ou d'une autre, prendre en question cette attaque et donc aider le client de l'éviter en identifiant le message comme un possible spam. Notre mécanisme pour que les users fassent attention à plusieurs des clients vont permettre qu'un client puisse voir un lien et le voir. Et si ça a un numéro de IP, ça devra être frauduleux. Et c'est une autre manière dans laquelle les clients peuvent faire attention avec ça. Et si c'est quelque chose qui dit que c'est urgent, et c'est tellement utilisé de nos jours que les gens doivent faire très attention à ce qui est la demande urgente, aussi de prendre le temps de lire tout le corps du message. Si vous lisez le courrier électronique, la majorité des courriers électroniques sont composés par des personnes dont l'anglais n'est pas leur langue maternelle. Donc, vous allez trouver des erreurs de grammaire, des erreurs d'orthographe. Donc, si vous voyez ça, vous devrez éviter d'aller à ce site ou sinon faire au moins attention de donner accès au portail ou de vos données d'information lorsque vous vous branchez avec le site du bureau d'enregistrement. Je pense qu'une des choses que plusieurs des clients font de manière très mauvaise, c'est qu'ils n'utilisent pas leurs mots-clés, ils ne les changent pas constamment. Et une des choses que nous avons donc obtenues du groupe de travail contre l'hameçonnage, une majorité des bureaux d'enregistrement n'ont pas suffisamment de mécanismes pour empêcher, par exemple, des attaques contre des logins. Donc, si vous êtes une personne qui crée un compte et vous utilisez un mot-clé, ou si vous utilisez votre date de naissance en question de mot-clé, vous vous mettez au risque. Nous avons parlé en question d'utiliser des numéros de carte de crédit pour des achats. Et ça, c'est par exemple une deuxième manière. Non seulement la personne doit connaître le numéro de carte de crédit qui peut être obtenu dans notre endroit, mais aussi connaître le numéro qui est dans la partie derrière de la carte, qui s'appelle le CVV. Alors, une des choses que AFLAC va voir dans les prochains mois, et surtout à la conférence carrière, c'est que plusieurs registrants ont des portefeuilles de valeurs majeures, des noms de domaines qu'ils veulent avoir, des noms de domaines qui sont configurés par la DNS, qui seront dans leur possession pour toujours. Alors, quelques bureaux d'enregistrement offrent des services premium, mais ces services sont typiquement offert au niveau plus élevé dans la chaîne de commande. C'est surtout des grandes sociétés. Donc, il y a des services où des petites entreprises pourraient payer, pour pouvoir se rassurer qu'ils ne vont pas être victimes d'attaques d'hameçonnage, à mettre des mesures. Ils ne seront pas victimes de cela. Donc, nous serons en train de voir ça et peut-être à la conférence de Cairo, c'est quelque chose que nous pourrons surtout mentionner. Et bon, c'est surtout ça. Si vous voulez lire tout le rapport de consultation, c'est pas très long. C'est disponible dans 5 langues grâce à Nick et son personnel et vous pouvez donc le télécharger de la page du personnel d'ICANN. Alors maintenant, si vous avez des questions. On peut continuer avec la discussion que nous avions avant. Bien. Alors, ce que j'étais en train de penser, et donc, et c'est Oli qui parle, donc pour les autres personnes aussi, notre propre administrateur de nom de domaine qui s'appelle Adar, récemment, on a demandé pour des soumissions en question des politiques de concurrence des noms de domaine. Et un des sujets qui a été soulevé, il y aura donc l'opportunité pour plus de commentaires en question de ça, c'est de quoi faire en question de revendeur. Car ce qui est très clair, c'est que des fois, ils ne sont pas au courant combien de revendeurs il y en a, même si les bureaux d'enregistrement sont censés donner cette information. Donc, il y a un manque d'information en question de ce que les revendeurs informent aux clients, quel est le type de service en question de plainte. Est-ce que les clients de revendeurs obtiennent des notifications pour les renouvellements, des choses comme ça? Donc, ça, c'est un problème qui a été soulevé et donc, il me semble qu'un autre des sujets qui a été soulevé par cette discussion, c'est aussi, est-ce que ces revendeurs comprennent ou comment est-ce qu'ils pourraient comprendre l'information qui a été fournie ce soir et comment fournir cette information à leurs propres clients? Donc, pour répondre à la première question, j'offre ma première réponse et aussi comme membre de VESTAC. Et donc, en question de ma propre division et comme membre du personnel d'ICANN, ICANN a un département de conformité. Dans le département de conformité, il y a une des choses que le personnel sait et d'essayer de renforcer les conditions du RAA. Alors, de même, le RAA impose des obligations contractuelles sur les bureaux d'enregistrement. Les bureaux d'enregistrement doivent avoir des obligations contractuelles avec leurs revendeurs pour qu'ils puissent satisfaire, disons, les règlements de conformité de l'ICA. Mais n'importe quel CCPLD peut suivre ce même modèle. Et ça impose, disons, quelques dépenses dans n'importe quel TLD, je veux dire. Mais si je vais vous permettre que vous soyez un bureau d'enregistrement et vous allez permettre à que Fred soit un revendeur, alors vous devez vous rassurer que Fred est au courant de tous les accords contractuels que vous avez, je veux dire. Et je pense que ça, c'est un pas important, non seulement en question de la conformité pour se rassurer que vos accords contractuels sont respectés, mais aussi de se rassurer que des informations de cette manière-là sont respectées s'il y a de l'abus qui a lieu, que cet abus ne soit pas répété ou que ça revient à un bureau d'enregistrement qui n'a pas une manière de, disons, appliquer au même niveau que le revendeur. Et donc, tout ce domaine mérite donc des analyses importantes parce que nous avons tellement de GTLD, nous allons avoir encore plus de TLD dans plusieurs langues et dans plusieurs scripts. Et donc, c'est tellement compliqué en question de système. Le numéro de revendeur et de bureau d'enregistrement est tellement énorme. Si nous ne pouvons pas gérer ça en ce moment, je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça pendant 5 ans. Et donc, ce n'est pas une mauvaise réponse. Et un des points que nous avions mentionnés, bon, bien entendu, il y a un arrangement contractuel entre le revendeur et le bureau d'enregistrement. Et est-ce que c'est le moment de se rassurer que ce type d'arrangement qui sont censés être suivis sont suivis pour savoir combien de revendeurs il y en a, mais aussi pour se rassurer que les bureaux d'enregistrement sont en train de fournir suffisamment d'informations. Et puis l'autre chose que nous avions suggéré, c'était peut-être la possibilité d'entamer par exemple, les propres programmes de formation pour les revendeurs, pour leur dire, écoutez, voilà ce que vous devez faire, nous avons des informations à vous donner pour dire, voilà les choses que desquelles vous devriez être au courant, pour donner aussi au bureau d'enregistrement pour qu'ils puissent dire aux propres revendeurs et qu'ils sont en train de donner l'information correcte à leurs revendeurs. Je pense que c'est une excellente idée et je pense qu'on devrait même aller plus en avance et par exemple donner l'opportunité de fréquemment poser des questions et la valeur d'avoir quelque chose comme ça. C'est lorsqu'il y a des formats qui sont affichés, ils pourront donc remporter cela. Donc, si vous mettez un ensemble de questions qui sont fréquemment demandées, et j'allais vous dire, par exemple, votre pellicule qui est ici, c'est quelque chose qui pourrait être affiché automatiquement, je veux dire. Et aussi des avertissements, par exemple, où les clients peuvent être informés de comment réduire. Moi, je prendrais même le texte de ces deux pellicules et soit le mettre dans le site principal ou au deuxième niveau pour que ça soit montré. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, je serais enchantée d'être le premier à prendre cette action, à mettre ça. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous faisons ça. Et un des premiers rapports que j'avais écrit, qui s'appelait « Piraterie de nos domaines », cela a été envoyé à plusieurs sites des bureaux d'enregistrement et nous allons commencer à voir l'opinion de plusieurs des personnes en question de protection des clients, en question de piraterie. Donc, c'est pas comme si c'est quelque chose de nouveau. La majorité de cette information, je veux dire, vient déjà des entreprises financières qui sont attaquées tous les jours, tous les heures. Donc, ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est de fournir surtout d'informations très faciles à comprendre pour que les clients puissent la comprendre. Et une des autres éléments auxquels j'ai pensé lorsque j'étais en train d'écrire tout cela, en question de tous les abus qui ont lieu, c'est que surtout dans les services d'enregistrement, la force ou la faiblesse de l'Internet, et c'est surtout sa collégialité et son contexte en académie. Donc, il y a tellement de connaissances et tellement de choses qui ont été créées, et c'est un grand phénomène. Je veux dire, ça n'a rien à voir, c'est la première chose dans l'histoire humaine en question d'information, mais le modèle de confiance, lorsqu'il n'y avait que 150 utilisateurs, c'est la même chose, mais le monde n'est pas, disons, par exemple, si simple que ça. Et ce n'est plus, par exemple, 25 administrateurs qui copient un nom tous les nids à minuit. C'est tellement plus sophistiqué que les modèles sur lesquels on pourrait se baser, parce que tout le monde connaissait le nom de tout le monde. Ce n'est pas la même chose et ça s'applique. Donc, à ce moment-là, c'est une question d'être plus au courant de combien de choses sont risquées lorsque nous continuons à avoir cette manque de disponibilité à rejeter les origines. Et donc, je pense que il faudra faire plus attention à authentification, à vérification dans presque tous les niveaux, parce que usurpation d'identification, c'est le deuxième plus grand problème que tous les internautes ont. Usurpation d'identification des adresses, par exemple, des applications. Et c'est vraiment Le point faible dans le modèle de confiance, c'est la raison pour laquelle c'est parce que le modèle originel n'a pas pensé à dans les menaces. Il pensait que ça allait être un système fermé. Et le fait que c'est maintenant un système public, bon, c'est un grand phénomène. Mais ça ne veut pas dire que ça avait été conçu de cette manière ça et qu'il n'y a pas de réponse à comment combattre ce problème. Et oui, David, c'est Alan Greenberg. Ce que vous êtes en train de dire, bon, vous avez raison, je veux dire, mais le sujet d'aujourd'hui a une autre dimension qui revient à ce que vous étiez en train de parler avant en question des revendeurs. Si nous voyons votre présentation telle qu'elle est, du titre jusqu'à la dernière pellicule, vous parlez des bureaux d'enregistrement. Et donc, si vous faites cela pour, disons, éliminer les connaissances de tout le monde, il faut inclure ça parce que les banques ont des grands problèmes avec la maçonnage, mais les banques, par exemple, ne permettent pas que d'autres personnes ont accès à, par exemple, leurs fiches, ce qu'ils font les revendeurs. Typiquement, un bureau d'enregistrement qui est petit, peut-être qu'il ne va même pas savoir qui est le bureau d'enregistrement. Oui, la majorité des utilisateurs petits n'ont même pas cette information. Bon, il y a ça aussi. Et donc, même si on voulait déchiffrer qui est le bureau d'enregistrement, il faudrait quand même être un utilisateur qui est un petit peu plus important. Et c'est quand même important ce que vous dites, parce que malheureusement, une des choses, par exemple, que font ces pellicules, c'est, bon, les bureaux d'enregistrement revendeurs et tout ça, c'est quelque chose que, par exemple, nous avons adopté dans les consultatifs d'ICANN et, bon, dans le futur, surtout dans des consultatifs pour le futur, il faudra faire en face sur le fait qu'il y a toujours plusieurs modèles à être considérés lorsque nous utilisons le mot bureau d'enregistrement et aussi le fait que c'est l'agent qui traite avec les revendeurs. Et c'est un bon point. Et du point de vue de la présentation, la pellicule numéro 2 dit, par exemple, revendeurs et bureaux d'enregistrement, donc question de plusieurs de choses. Et quand nous n'avons pas des contrats avec les revendeurs, donc il n'y a rien que nous pouvons faire. Et bon, peut-être que c'est légalement vrai, mais en même temps, vous pouvez imposer des règlements en question du bureau d'enregistrement, mais c'est important que de notre point de vue, du point de vue d'ICANN, à reconnaître qu'il y a un grand problème et à commencer à travailler, et au lieu de juste dire qu'il n'y a pas un problème en question de ça. Et puis, il y a un contrat avec un bureau d'enregistrement, par exemple, et si le revendeur n'a pas être fourni l'information et les arrangements ne sont pas en place, donc le bureau d'enregistrement a donc cassé le contrat. Et donc, il faudrait dire, vous étiez censé de faire ces arrangements, vous aviez accordé avec nous de faire ces accordements, donc nous voulons que vous êtes assis. Si vous aviez fait un accord avec nous, il faut respecter ces arrangements. Et donc, ça, c'est que le bureau d'enregistrement prenne la responsabilité, oui. Mais cela, si le bureau d'enregistrement a une obligation légale. Je pense que, bon, c'est quelque chose qui a une solution et c'est un bon point aussi. Et je vais vous dire, Aline, moi aussi, je vais devoir donner une présentation en 2 semaines à une conférence de CCTTLD et je vous promets que les pellicules diront surtout à usurpation d'identification. Et je vais me rassurer que lorsque je parle en question de tout ça, du client qui a maçonné, ça n'a rien à voir qui a les accords légaux. Et la majorité des clients qui tombent victimes de ça, c'est surtout ceux qui sont au niveau de consommateurs qui obtiennent leur domaine, disons, de petits paquets d'autres sources qui viennent. Donc, la majorité des gens ne savent même pas ce qui veut dire bureau d'enregistrement, quoi. Y a-t-il une autre pellicule qui pourrait, par exemple, dire si vous êtes un bureau d'enregistrement et vous avez des arrangements de revendeurs, voilà ce que vous devrez faire et voilà ce que vous devrez le dire. Voilà ce qui devrait apparaître dans votre site officiel. Et si finalement l'ICANN, il n'y a pas une pellicule en ce moment, il devrait y en avoir. Quelques considérations à ça, bien entendu, et je pense à ça, et ce qu'on pourrait faire, c'est parler après cette conférence, c'est formuler ça ensemble, parce que je suis en train de penser que si vous avez quelque chose pour le client, si vous avez quelque chose pour le bureau d'enregistrement, mettre un tout petit peu plus et dire au bureau d'enregistrement, si vous avez des revendeurs, voilà ce que vous devriez leur dire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et ça serait une pellicule très, très légitime. Alors, c'est la fin de l'heure. Donc, vous avez mon courrier électronique. Alors, vous m'écrivez un courrier électronique. Nous allons parler de ça. Et puis, nous allons voir si ça vaut la peine. Et par exemple, amplifier le consultatif de ce qui sont les devoirs des revendeurs. Je pense que insérer des changements est quelque chose qui aide beaucoup, mais apprendre plus sur un sujet, c'est quelque chose qu'il faudrait partager avec la communauté, si possible. Et je n'ai pas d'objection à écrire de plus en question de ça. Laissez-moi juste écrire le courrier électronique de ça. Bien. Alors, je vais me coucher ici. Oui, ça doit être très tard. C'est très tard ici. Alors, vous n'allez pas avoir des nouvelles de moi pendant quelques temps. Mais merci pour nous avoir joints et pour avoir écouté à cette à conférence. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Nous avons terminé. Et juste du point de vue du consommateur, si nous, par exemple, voyons une attaque d'Amazon, j'aimerais bien voir dans le site d'ICANN tous les coordonnées dans le site d'ICANN. Des bureaux d'enregistrement. Et dès que je termine, je vais envoyer un courrier électronique à Steve Crawford pour parler sur ce sujet. Et puis, nous allons contacter l'ICANN et voir comment est-ce que quelqu'un peut faire ce type de travail pour créer cette liste. Et l'ICANN a déjà une liste de tous les bureaux, de tous les bureaux d'enregistrement. Et donc, oui, et typiquement, ils ont qu'un numéro de téléphone et qu'une adresse d'email, mais je pense que ce n'est plus suffisant et que surtout, ce que je pense, c'est qu'il devrait y avoir un centre de données où, par exemple, vous pourriez mettre le nom de votre bureau d'enregistrement. Il ne faut même pas que ce soit le revendeur ou quoi que ce soit une adresse ou celui qui revendent et recevoir une information qui donne tous les coordonnées du bureau d'enregistrement. Et ça devrait être quelque chose de très simple. Et je pense que ça va économiser à l'ICANN plusieurs heures parce que c'est des questions que nous avons tout le temps. Lorsque vous venez au bureau d'ICANN et vous vous asseyez pendant 15 minutes, vous allez entendre les téléphones et une des secrétaires qui vont dire, bon, nous ne traitons pas votre compte, vous devriez donc entrer en contact avec la personne avec qui vous aviez enregistré ces soins et c'est toujours une explication très détaillée. Donc, c'est quelque chose et la dernière question que je voulais vous poser, c'était votre point de vue en question de comportement des bureaux d'enregistrement, de renforcer des dispositions de la IUP parce que nous avons l'impression que la majorité des bureaux d'enregistrement vont rien faire en question qui est un ordre judiciaire, bon, c'est pas si mauvais que ça. Et bon, ça varie de bureau d'enregistrement à bureau d'enregistrement. Moi, j'en ai par exemple tous mes noms qui sont faits par une compagnie à Long Island, c'est des revendeurs. Ils ne font pas partie de l'ICANN s'il y a un problème. Moi, je suis informée de cette compagnie avant de recevoir cette information d'autres personnes. Mais bon, bien entendu, c'est une bonne entreprise. Ils n'obtiennent pas plus de clients qu'ils ont. Alors, je ne veux pas dire que qu'ils sont uniques, mais il y en a moins d'entreprises comme celle-ci utilisent le modèle duquel vous parlez, où ils se rendent compte du problème, où ils traitent avec un problème lorsqu'il y a une commande judiciaire. Oui, parce que je suis en train de voir les dernières communications en question des bureaux d'enregistrement, leur relation avec la vente des produits de stéroïdes, je veux dire. Et on se demande de nos jours si le consommateur fait son travail et informe le problème au bureau d'enregistrement, si ça va être traité. Bon, oui, bon. Nous traitons ça de manière très lente et nous travaillons. Parce que moi aussi, je fais partie des groupes de travail contre le maçonnage et une des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler avec les bureaux d'enregistrement et avec les registrants, c'est un plan de suspension. Et donc, le plan de suspension d'accélération, c'est nous recommandons une identité dans laquelle le consommateur a confiance. À que cette identité et de cette manière-ci, que vous pouvez faire en question de bureau d'enregistrement ou de registrement, si vous avez une plainte de ces personnes, prendre action parce que, bon, bien entendu, même s'il y a toujours des fois des avis qui ne sont pas nécessairement vrais, ça fait quand même plus de sens d'aller à la GLPD. Ou à d'autres entités contre le maçonnage ou les revendeurs parce que le chemin en question du processus d'abus, il est très lent. Et une des raisons pour laquelle c'est tellement lent et c'est tellement... c'est parce qu'il y a un processus de résolution. Et c'est parce que les pirates sont en train d'attaquer aussi cela pour maintenir leur propre abus en dehors de l'Internet le plus tôt possible. Oui, bon, bien entendu. Alors, ce plan de suspension d'accélération, parce que j'étais en train de parler donc dans le langage... qui avait été mis il y a certaines choses que nous pouvons faire de manière plus vite au niveau du bureau d'enregistrement. Bon, je pense que les deux sont importants. Nous sommes en train de travailler avec DataAsia et ils sont en train de traiter avec travailler avec d'autres personnes avec un plan spécial pour ce plan de suspension accélérée. Et le but sera surtout d'avoir les non-domaines, et de les obtenir dans 2 heures. Vous aviez obtenu des personnes de la constituante, du collège de constituante pour donner à. Je ne peux pas vous donner, mais il y en a plusieurs personnes du Collège de propriété intellectuelle et bien entendu les propriétaires des marques, c'est surtout les personnes qui sont les leaders, parce que c'est surtout les personnes qui sont les victimes principales de la maçonnage. Mais il y en a aussi des bureaux d'enregistrement qui envoient leurs représentants, je veux dire. Donc, lorsque nous terminons ça, vous pourriez m'envoyer un lien où je peux lire plus sur ce plan accélération. Alors, je vais vous envoyer donc les pellicules que je vais utiliser du HPT. Je ne sais pas si le rapport est public ou pas. Donc, j'ai confiance. Vous connaissez Arvid Muffin. Alors, j'ai l'impression qu'Alad a déjà présenté cela au bureau d'enregistrement. Alors, vous voudrez peut-être parler avec Paul Diaz, parce que lui et Rod, qui sont en train de faire des travaux. Paul, par exemple, fait partie de la commission du IPTTLD, donc il y en a beaucoup de communication de la communauté de l'ICANN et surtout des marques et surtout de plusieurs communautés qui ont des inquiétudes en question de l'hameçonnage et surtout ce qu'ils vont faire, c'est donner le plus d'informations possible en question de ce sujet. Donc je pense que nous essayons de travailler durement sur ça. C'est un processus qui est très long parce que ça demande beaucoup de travail et ce travail est cher. Et franchement, plusieurs de ces bureaux d'enregistrement ne sont pas provoqués à faire ce type de travail et à ajouter des personnels et d'autres ont toute l'attention. Et donc, bien entendu, c'est une question de la solution de réseau, je veux dire. Donc, c'est difficile. Vous connaissez bien toute la situation, donc et la représentation est tellement ample, les opinions sont tellement amples, je vais dire que c'est un des exercices. Bon, ça va m'aider beaucoup. Et vous, si vous pourriez m'envoyer un courrier électronique surtout, et j'essaierai de vous trouver quelque chose. Sinon, à la fin, je pourrais vous envoyer au moins les pellicules, quoi. OK, merci.